Radio Silence, bonjour. J'ai choisi de faire cette émission dans la ville, hein, afin que vous ayez comme ça en arrière-plan le brouhaha urbain qui rend un peu compte de ce qui se passe actuellement au Cameroun autour de la campagne présidentielle où, franchement, de ma vie, quand même, hein, 50 ans passés, parmi lesquels on va dire 25 ans jusqu'à 25 ans au Cameroun, l'âge où je suis venu en France, j'ai jamais vu un tel engouement pour une campagne présidentielle. C'est vraiment le signe que le vent a tourné, les temps ont changé et les peuples sont revenus dans la scène politique. C'est pas de gaieté de cœur, hein. En fait, ils ont été poussés dans leur dernier retranchement. Et vous pouvez pas acculer les gens à la misère pendant des années, et espérer que ils vont rester, toujours indolents, passifs, spectateurs de leur propre vie. Non, ils sont arrivés au point où il s'agit de survivre. Il s'agit de survivre, et la notion de la survie, ça me fait penser à l'association du même nom qui était fondée par François-Xavier Verschave, le regretté Lyonnais décédé, et qui a consacré beaucoup d'énergie à la France-Afrique. Le plus long scandale de la République. François-Xavier Verschave lui-même se revendiquait de Mongo Betty, un enfant du pays rentré au Cameroun après une carrière d'enseignement ici en France, et qui n'a jamais eu l'honneur ni la reconnaissance, vous savez, de ses pères. Ça, c'était le moment où les Camerounais, vous voyez, il était de Mbalmayo, me suis-je laissé dire, Mongonam, comme on dit, l'enfant du pays, il est rentré, mais sans fanfare, sans rien. Son collègue, enfin, écrivain à ce moment-là, il y avait deux grands écrivains quand moi j'étais à l'école, là. Mongo Betty et puis Ferdinand Oyono, qui a eu une carrière plus diplomatique. Il a eu plus de reconnaissance. Allez donc savoir. C'est très, la vie n'est pas toujours juste, mais heureusement que parfois, parce que ça aussi, même l'histoire finit par ne pas forcément être juste. Mongo Betty, un jour, il faudra lui donner toute sa place dans la formation des esprits comme le mien, par exemple. Et en même temps que je lisais Césaire, je lisais Mongo Betty. Et je crois que c'est déjà une grosse perte dans la formation. Et là, on rentre donc de plein pied dans l'univers de la campagne au Cameroun. C'est quelque chose qui manque dans la formation des jeunes aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui sont comme ça shootés à tout ce qui transparaît de l'idéologie occidentale. Où est-ce que cela transparaît? C'est à la télévision, malheureusement, dans ces reality shows à deux balles, dans ces les talk shows, veillez un peu la télé insipide, dans parfois aussi les méga films. Bon, bref, c'est, l'Occident sait bien se vendre, hein, et nous sommes dans une culture de l'image. L'image a pris le dessus, et les enfants, ils sont là, c'est la fashion, c'est l'image, c'est les réseaux sociaux, on tchache beaucoup, on bavarde beaucoup, mais on pense pas trop. C'est le dernier gossip qui a raison. Personne n'apprend plus rien de personne, ou n'apprend plus rien rien du tout. L'école essaye de faire ce qu'elle peut, mais ce n'est pas si simple. C'est même très compliqué, cet environnement aujourd'hui, d'instruire les enfants. Et quand en plus on apprend que les politiciens sont en train de vouloir introduire ce qui se passe à la télé à l'école, eh bien, la coupe est pleine, la coupe est pleine. Donc les jeunes, c'est un peu ça. Et le pire, c'est qu'ils veulent donc nous refaire le coup de ce qui s'est passé ici en France récemment, où c'est vrai, il y a le désespoir qui fait qu'après on dit tout sauf celui qui est en place. Vous savez, Sarkozy a connu un peu cela. C'est vrai aussi qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a peut-être rien dit du tout, parce que, on a dit quelque chose et pas aussi. Parce que si à côté de cela, c'est le passage en force qu'on voit actuellement, le même passage qui a eu lieu ici récemment, et qui a fait qu'on a usé de toutes les méthodes pour éliminer les concurrents comme François Fillon, par exemple. Si c'est ça la méthode, si la méthode c'est aller faire le maximum de bruit dans les réseaux sociaux afin que les autres candidats soient inaudibles et que ce soit qu'on occupe la totalité de l'espace avec des formes, j'allais dire, d'imposture comme ça, c'est embêtant. Parce qu'on passe là de quelque chose, d'une revendication saine, quelque chose qui ressemble à un hold-up. Voilà, et ça, ce n'est pas, c'est pas le projet, c'est pas... on dérive un peu, hein. On était d'accord que... au bout d'un certain temps, il faut passer le relais. On est d'accord qu'il faut faire la politique autrement. Mais si c'est autrement, ça veut dire c'est le plus organisé dans les ténèbres qui gagne. Là, on n'est plus d'accord du tout. Alors, toujours dans la continuité donc, de la campagne présidentielle, pour vous donner un peu comme ça, pour vous faire sentir l'atmosphère du débat, on n'a pas dans cette campagne quelque chose qui permette vraiment de se démarquer, tout simplement parce que c'est vrai, le président en place, il s'est plus préoccupé de peut-être de la macroéconomie et moins de l'intérieur, encore que, parce qu'il y a quand même des projets à l'intérieur. Cela donne que vous avez tout un secteur d'activité comme la téléphonie qui est bradée, vous avez le rail qui est privatisé, vous avez l'énergie et l'eau qui sont privatisées, vous avez ces grands secteurs en fait qui rapportent de l'argent, le transfert d'argent de la diaspora en Afrique qui est... un peu comme ça, capté aussi par des organismes dont on ne connaît pas trop l'origine, alors qu'auparavant il y avait une société qu'on appelait Intelcam qui fédérait tous ces transferts. Donc il y a un manque à gagner fou de l'État qui laisse partir l'argent, qui laisse partir l'argent. Et le peuple, non seulement il ne voit pas les emplois arriver, mais il voit bien qu'il enrichit. Je n'ai pas dit le parti de l'étranger, mais c'est un peu ça. Et donc, c'est un paradoxe inouï, après, que de venir leur dire, voilà, vous n'avez pas de travail, on enrichit les opérateurs extérieurs, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous faire des routes, nous allons peut-être faire ci, nous allons peut-être faire ça. Quelque part, c'est pas juste, et c'est même pas intelligent. Du coup, dans cette catégorisation comme cela, dans ce non-dit, dans ce flou, on voit bien que tous les candidats le voient, tous les candidats échappent aux vraies questions. Est-ce que M. Bolloré va partir? Est-ce qu'on va arrêter ses contrats? Et lui qui gère le port, lui qui gère le rail, lui qui fait le bois, il fait tout, hein, Monsieur Bolloré, en Afrique. Est-ce que la téléphonie va être nationalisée? L'eau, l'énergie, le transfert d'argent. Je veux dire, il y a des secteurs sensibles comme ça, de la souveraineté, qui sont bradés à l'étranger, qui ont été bradés à l'étranger par les plans d'ajustement structurel du FMI, et que la Banque mondiale vient soutenir par derrière avec de l'aide. Franchement, ça sert à rien. Est-ce que tout cela... Je suis près de la gare. Hein. Là, c'est un train qui passe. Je vous ai dit, j'étais en plein centre-ville pour vous faire sentir le brouhaha sonore. Et c'est tant mieux que le train passe parce que on est justement en train de parler du Cambrai. Est-ce que le Cameroun, j'écoutais M. Mélenchon qui disait que les choses comme le rail, ça ne doit pas être privatisé. Le rail, il faut un monopole. Le rail, il faut un monopole. Et ce n'est pas seulement pour le rail. L'Afrique, compte tenu de son histoire récente, ne peut pas privatiser la téléphonie, ne peut pas privatiser l'eau, ne peut pas privatiser l'énergie, ne peut pas privatiser le rail, ne peut pas privatiser le port et toutes les infrastructures sensibles. Mais pourquoi elle le fait, sachant qu'elle perd un argent fou? Je ne sais pas, même la banque, quelque part, il fallait laisser tout ça encore au trésor public, parce que les frais bancaires sont exorbitants et on ne voit pas le crédit. On ne voit pas le crédit alors qu'il y avait des organismes qui étaient chargés de faire ce crédit, comme le crédit foncier et comme la banque des paysans. On n'entend plus tout ça, on voit juste toute une... comment on va dire ça? Le paysage bancaire est complètement nouveau, il a changé et on ne donne pas de crédit, sauf si vous êtes fonctionnaire, parce que là, vous avez... comment on appelle ça, la garantie de l'emploi. Sur le front de l'emploi, alors, oh, ça c'est la question, chacun y va de sa parade. Oui, je créerai, oui, je ferai, oui, je vais créer. Bien, quand on voit, il y a quand même deux secteurs qui ont besoin vraiment d'un gros boost en termes d'emploi, peut-être trois d'ailleurs. On a l'agriculture, on a tout ce qui est éducation nationale, et puis il y a la santé. C'est vrai que la politique de la santé laisse à désirer. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, sauf en me disant que, bon, d'accord, il y a un candidat, M. Libi, qui dit qu'il est pour la CMU. Ok, je l'accorde cela. Sauf en disant cela, mais la politique en matière de santé, en matière d'éducation, et en matière d'agriculture, ça reste très... c'est pas assez fouillé, c'est pareil pour la sécurité, il y a des secteurs comme ça. Vous savez que le Cameroun en ce moment souffre d'un début de, je vais dire ça, libisation, si on peut dire comme cela. Il y a eu une guerre, il y a eu l'équivalent de Boko Haram du côté du sud-ouest et du nord-ouest, qui est vraiment en conflit armé là. Et ça fait des morts, c'est sérieux, on n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas s'ils pourront même d'ailleurs voter, on ne sait pas trop pour la rentrée scolaire, ce que ça donne, on ne sait pas trop pour la santé, voilà, ce coin-là maintenant est un peu une forme de concentré de tous les maux et les malaises que peut rencontrer le Cameroun en ce moment. Et là aussi, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que les candidats disent? Ils parleront pour le reste, mais on ne dit pas, il n'y a pas quelqu'un qui vient avec un plan de sortie de crise. Il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y en a pas parce qu'on est là entre justement ce double jeu diplomatique où c'est le même qui vous soutire l'argent du côté... de ces grands trucs comme Orange Money, comme MTN, vous voyez un peu ces grands groupes-là, ils se font un fric fou, et peut-être aussi les mêmes qu'on soupçonne dans l'armement et de ceux qui foutent la merde du côté du sud-ouest. Bien, finalement, ça donne quoi tout cela sur l'éducation à réformer? Parce que c'est un grand bazar, il faut réinstaller le public au cœur du système éducatif. Ça donne quoi au niveau de la santé? Alors là, il y aura à faire les infrastructures. Bon, bref, le Cameroun a presque besoin de tout. et je ne parle même pas de la logistique. Dans ces conditions, voter pour qui, c'est compliqué. C'est compliqué et on laisse cela aux alliances. Parce qu'au début, on a voulu faire une sorte de clivage entre ceux qui seraient la génération de plus de 45 ans, les vieux, hein, et les jeunes. Allusion au fait qu'il y a un candidat de la jeunesse, c'est lui qui porte l'avenir, et que l'avenir étant toujours une affaire de jeunes, les moins jeunes et les vieux ne sauraient pas comprendre ce qu'il faudrait pour le Cameroun. Bon, un gap générationnel très 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 dérangeant, parce que ça c'est pas un argument de campagne. C'est vrai, le jeunisme, ok, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à condition qu'on nous parle des jeunes qui sont vraiment sensibilisés à la question politique et citoyenne. Là, on a des jeunes qui le sont moins, désolé. Ils sont plus sensibilisés aux médias sociaux, au bruit, à l'esbrouf, à la triche électorale, à toutes ces magouilles-là, ça, c'est pas bon du tout. La cause est entendue, parce que là, c'était mal parti. À un moment donné, on a voulu introduire un peu de tribalisme, là aussi, ça n'a pas marché. Et cette campagne, d'ailleurs, si elle a quelque chose aussi de vraiment positif, c'est qu'elle montre que le tribalisme en Afrique, en matière de démocratie, c'est faux. Les candidats sont de telle ou telle région, mais ils sont soutenus de façon disparate. C'est pas parce que vous êtes Bamileke que les Bamileke vous soutiennent. C'est pas parce que vous êtes Bassa que les Bamileke ne viendront pas vous soutenir. Vous voyez un peu, ils sont de plusieurs origines. Et je vous assure, les alliances ou les gens qui appellent à voter pour un tel, vous avez des gens du Nord qui appellent à voter pour un Bassa, ceux qui disaient que l'ethno, je sais pas quoi, mathématiques, avait cours en Afrique, avait tout faux. Parce qu'en ce moment, le Cameroun est en train de présenter un tout autre visage sur ce plan-là. La diaspora pourra faire une différence, même comme il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui voteront depuis l'étranger, because double nationalité. Donc là, on voit très bien la stupidité de ceux qui ont refusé de reconnaître la double nationalité. Donc la diaspora, en même temps, elle a eu une influence certaine dans ces élections, et en même temps, elle est dépossédée du droit de vote par ceux qui sont en place. Allez donc comprendre. Et au-delà quand même de l'effet du nombre, il y a un effet symbolique pour la diaspora qui compte beaucoup. Et je lisais récemment que tous les Ben Sikineurs, ce sont des gens qui, vous savez, les motos qui font taxi, les mototaxis, ont appelé, se sont constitués en collectif et ont appelé à voter pour le président Biya. Voilà, donc quelque chose d'important aussi, d'important parce que les Ben Sikineurs, pour moitié, ce sont des diplômés. Ce sont des jeunes diplômés qui n'ont pas trouvé du travail. Donc, si ces jeunes diplômés se mettent du côté des Biya, déjà, ça casse, vous voyez, un peu la dynamique, enfin, l'argument de la jeunesse qui serait derrière un tel et pas derrière les autres. Parce que ces Ben Sikineurs, ce sont des jeunes et pour le coup, ils sont dans la réalité politique et pas seulement dans les Facebook et tout le reste pour monter des grands trucs comme ça là dans les médias sociaux. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de voir à la fin quel aura été l'impact réel des médias sociaux sur cette élection où il y a trop de bruit pour un candidat comparativement à l'impact sur le terrain, les autres candidats. On verra si ce facteur est décisif. On a beaucoup dit que Barack Obama avait gagné parce que il avait su utiliser les réseaux sociaux. Je suis pas sûr. Il n'y avait pas que ça. Il y avait surtout l'effet qu'on a vu plus tard. Si ce sont les médias. Ce sont les médias qui ont porté tout cela comme ils voulaient porter Hillary Clinton, mais sauf qu'à ce moment-là, ça ne s'était pas encore vu, c'était encore nouveau, en fait, c'était encore caché, on n'arrivait pas à décoder cela, mais avec Trump, la chose est arrivée, toute crue, et ça s'appelle les fake news. Donc les fake news peuvent avoir un impact fort dans la promotion d'un candidat. Il faut être vigilant et je me réjouis que au Cameroun, si cet effet existe, franchement, il est continu, il est marginal et les journalistes ont à cœur de pas trop tremper dans cette sauce-là parce que ça va pas être joli et bien et bien vu. Et surtout à cette heure-ci où l'Africain est en train de vouloir se reconnecter à son identité. Et donc forcément, cela va passer par une forme de mise à l'écart des modèles occidentaux, à la fois médiatiques, parce que, bien que, c'est une corporation internationale, il ne faut pas rêver, mais quand même, il faudra se décaler un peu, parce que pour une fois, il y a le poids du peuple qui est là. Et je vous assure que quand le peuple pèse comme il pèse en ce moment de tout son poids sur une élection présidentielle, ça peut changer beaucoup de choses. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.